7h24 sur France Culture. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Guillaume.
Le parallèle entre Mossoul et Alep.
Oui, Mossoul et Alep, même combat. S'agit-il du même combat? Ils sont nombreux, les titres de la presse internationale, à vouloir tenter le parallèle, ne serait-ce qu'à cause de la concordance des temps. Les deux batailles se déroulent en même temps, à 642 km de distance l'une de l'autre, écrit le Huffington Post. Et le sang, surtout celui des civils, coule de la même manière dans ces deux batailles jumelles. Les deux villes, chacune comptant près de 2 millions d'habitants avant-guerre, chacune carrefour d'anciens empires, sont considérées comme autant d'objectifs stratégiques cruciaux, alors même qu'elles sont aussi le creuset des souffrances de centaines de milliers de civils, poursuit sur la même veine, le Los Angeles Times. Pour autant, s'agit-il bien de la même bataille? À en croire les télévisions, les médias en ligne et les blogs alignés sur Moscou ou sur Damas, on pourrait le croire. Des deux côtés, affirmait-on par exemple du côté de la Pravda russe il y a quelques semaines, on a des gouvernements légitimes, irakiens ou syriens, qui partent en guerre appuyés par leurs alliés contre des terroristes, lesquels ont fait main basse sur chacune des deux villes. Mais depuis quelques jours, le ton change et c'est plutôt d'une sorte de concurrence entre les batailles qu'il est question dans les colonnes tant des médias pro-Kremlin d'ailleurs que dans les pages de la presse occidentale. RT, par exemple, la nouvelle appellation de Russia Today, explique, citant abondamment Vitaly Shulkin, l'ambassadeur russe aux Nations Unies, RT explique que la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU demandée hier par la France à propos d'Alep n'est rien d'autre qu'une tentative de détourner l'attention du monde des problèmes humanitaires nés de l'opération occidentale sur Mossoul. Mossoul, où la situation humanitaire est bien pire qu'à Alep Est, assure la chaîne russe. Évidemment, ce n'est pas tout à fait le même son de cloche que l'on trouve dans la presse de Washington. Prenez The Hill, par exemple, le quotidien politique de la capitale américaine. La bataille de Mossoul ne ressemble même pas de loin à la bataille d'Alep, écrit Brian Michael Jenkins dans une longue tribune. Il ne peut y avoir d'équivalence entre les deux, poursuit-il, et d'expliquer qu'alors que l'usage de la force par l'armée irakienne à Mossoul a été particulièrement mesuré, du fait de la présence dans la ville de centaines de milliers de civils, et cette mesure explique en large part pourquoi la progression des soldats irakiens est si lente à Mossoul, à Alep, en revanche, les forces syriennes et russes n'ont apparemment pas la moindre retenue dans leur utilisation des moyens militaires, allant jusqu'à bombarder délibérément des cibles civiles. Ce genre de tactique traduit l'approche du combat contre-insurrectionnel qu'on a tant en Syrie qu'en Russie, poursuit Brian Michael Jenkins, une tactique qui vise à rendre la vie impossible dans les zones non contrôlées par le gouvernement, en attaquant les commerces, la production alimentaire, les services publics et tout ce qui est nécessaire à la vie quotidienne. Une tactique qui ne fait aucune différence entre les combattants et les non-combattants et qui renvoie aussi bien à l'histoire récente de la Syrie qu'à celle de la Russie, dès qu'il s'agit de mater une révolte interne. Et Brian Michael Jenkins de rappeler la brutalité avec laquelle Hafez al-Assad, le père de Bachar, avait écrasé l'insurrection des frères musulmans à Hama, en Syrie, en 1982, en bombardant la ville, ou les transferts massifs et forcés de populations opérés par Staline dans les années 30 ou 40 en URSS, des populations, les Baltes par exemple, ou les Tatars, considérés comme autant de menaces potentielles à l'hégémonie du territoire soviétique. Le même genre de tentative d'homogénéisation ethnico-religieuse est à l'œuvre en Syrie, où la moitié de la population du pays a d'ores et déjà été déplacée, soit en interne, soit à l'étranger. Ce n'est pas une coïncidence si les deux villes de Mossoul et d'Alep sont aujourd'hui dans une situation aussi dramatique, écrit pour sa part Eyad Abu Shakra dans le quotidien saoudien Ash-Sharq al-Awsat, publié à Londres. Les deux cités partagent la même identité démographique, laquelle incarne une sorte de statu quo dont on ne veut plus dans la région. Toutes deux ont une population en majorité arabe sunnite, avec d'importantes minorités, arabes et non-arabes, chrétiennes et non-chrétiennes. En poussant à l'exode ces populations, la Russie, le régime d'Assad travaillant de concert avec l'Iran, essaie de créer un nouveau statu quo démographique en Syrie, estime l'éditorialiste, et ce sont les arabes sunnites qui vont en payer le prix. À vrai dire, les objectifs politiques des deux batailles de Mossoul et d'Alep semblent effectivement différents. À Mossoul, l'objectif est bien de réintégrer la seconde ville d'Irak et sa population, à majorité sunnite, dans le giron du pays, lequel est en majorité chiite. À Alep, il semble qu'il s'agisse en bonne part de vider la ville d'une bonne partie de sa population. C'était le sens donné à ces couloirs, soi-disant humanitaires, proposés ces dernières semaines par le régime à la population d'Alep Est. C'était également le sens des derniers tracts envoyés sur cette même Alep Est et qui en substance offrent à cette même population le choix entre partir des zones rebelles ou mourir sur place. Mais la bataille d'Alep a aussi des objectifs plus géopolitiques, pourrait-on dire, pour la Russie tout au moins. C'est ce qu'expliquent Dmitri Stechin et Alexandre Kotz dans les pages de la Komsomolskaya Pravda. Prendre Alep, écrivent-ils, changera la polarité de l'environnement au Moyen-Orient. La Russie passera du statut de simple présence dans la région à celui de puissance décisionnaire, voire de puissance dominante, si l'assaut sur Mossoul, lui, ne se concrétise pas. tout le monde se tournera désormais vers la Russie plutôt que vers l'Occident dès qu'il y aura un problème dans la région. En ramenant la paix à Alep, poursuivent nos deux chroniqueurs, la Russie recevra en récompense non seulement les deux bases sur la Méditerranée qu'elle a déjà, mais elle pourra aussi se draper dans la blanche toge du pacificateur. Elle pourra alors sérieusement s'occuper d'un certain état fasciste récemment apparu dans la région de Belgorod, conclut-il. Manière de rappeler incidemment que la guerre russe en Ukraine n'est pas elle non plus terminée.
Merci beaucoup Éric Biégala. On vous retrouve sur le net franceculture.fr.